genèveactive.ch.
Perrine Valli, vous signez « Je pense comme une fille enlève sa robe ». C'est un duo chorégraphique qui allie danse abstraite, voix et scénographie plasticienne. Vous explorez notamment le corps prostitué. Comment l'abordez-vous dans cette pièce ?
Il fallait faire un choix parce que c'est un vaste sujet. Donc je l'ai abordé essentiellement sous trois angles. Par rapport, dans un premier temps, à la nudité. Donc j'ai fait un parallèle entre le corps nu et le corps sans limite, donc le corps prostitué. Donc tout un travail sur la nudité. Je l'ai abordé par rapport au masculin, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte que le corps prostitué n'existait pas sans évidemment l'évocation du masculin. Donc beaucoup de scènes sont vues comme à travers un regard qui pourrait être un regard éventuellement d'homme. Voilà, c'est essentiellement les deux points que j'ai traités.
Vous abordez également la question de l'espace, en fait.
Oui, en fait, c'est vrai que j'ai essayé de voir la notion de limite qui était très présente dans le corps prostitué, à la fois à l'intérieur du corps, puisque chaque pratique a quand même ses propres tarifs. Le corps est vraiment divisé en limites. Chaque partie du corps n'a pas les mêmes valeurs, quelque part. Et donc aussi dans l'espace urbain, l'espace de la prostitution est toujours dans un quartier défini. Le corps où il est placé précisément, c'est très délimité, que ce soit sur les trottoirs, dans les salons, etc. Donc j'ai fait un petit parallèle avec un espace très, très délimité sur l'espace scénique qui était déjà présent dans mes anciens travaux, même si ça n'abordait pas ce sujet.
Vos anciens travaux, on en retrouve quelque chose dans ce premier solo sur un espace contraint, délimité. Donc c'était Macababno Canada et série. Là, effectivement, vous développez une série de mouvements en partant, en fait, notamment des bras pour, mettre en mouvement le reste du corps. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce solo qui est assez long, d'ailleurs, et qui ouvre cette pièce ?
Oui, alors en fait, au départ, c'est vrai que dans mes deux autres travaux, il y a aussi beaucoup de travail des bras. Et c'était notamment parce que le corps était au sol. Donc c'est vrai qu'il faut prendre le corps d'une manière différente et que c'est beaucoup les bras qui peuvent s'exprimer à ce moment-là. Alors je voulais pas que le corps soit de nouveau trop au sol par rapport au sujet, justement. Donc je voulais le surélever en le plaçant sur un objet qui soit à la fois horizontal mais qui puisse surélever le corps. Donc c'est pour ça qu'il y a cette table qui peut faire référence à un lit, à une table, à un podium, enfin à plusieurs choses. Et ce qui fait que les bras ont été finalement l'espace du corps qui pouvait s'exprimer par rapport à un espace aussi contraint et aussi réduit qu'une table d'un mètre cinquante de long. Donc les bras étaient la possibilité de bouger par rapport à ça, disons.
Alors, il y a aussi une dimension que vous abordez, c'est celle du temps, et c'est celle de l'attente, en fait, qu'il y a entre plusieurs passes. Quand vous avez rencontré, je crois, des prostituées dans le cadre d'Aspasie, notamment, elles témoignaient qu'en fait, la passe en elle-même était celle qui était réduite à la configuration temporelle la plus courte, et ce qui comptait le plus, c'est le temps d'attente, que ça soit en studio, chez soi, pour des formes de prostitution occasionnelle, comme on en rencontre notamment ici à Genève, ou par internet, ou alors dans les salons de massage. Mais c'est vraiment la majorité du temps, c'est un temps d'attente que vous rendez d'ailleurs assez bien. Il y a cette jambe ballante comme ça.
Oui, c'est vrai que j'étais intéressée après, parce que ce sujet, je l'ai donc abordé en prenant des thématiques liées à ce sujet, et ensuite il n'y a pas de lien très narratif, mais le rapport au temps de ce corps-là était, je trouvais, assez intéressant, comme vous l'avez très bien dit, parce que c'est des temps assez extrêmes. C'est des personnes qui peuvent à la fois attendre longtemps ou attendre avec l'envie que quelque chose se passe, ou au contraire, peut-être des fois pas l'envie que quelque chose se passe. Donc déjà, dans cette attente, il peut se passer plusieurs choses. Et puis ensuite, ça c'est vrai que beaucoup de prostituées le disent, que le rapport lui-même, en général, doit s'effectuer le plus vite possible, que ce soit en termes d'argent ou en termes d'envie, j'en sais rien. Ça dépend. Mais en tout cas, le rapport est donc très... Donc elle passe comme ça de rapport au corps qui peuvent aller d'une extrême vitesse à une extrême lenteur. Et donc voilà, c'est ça que j'ai voulu un petit peu redistribuer dans les danses. Il y a donc des danses lentes et des danses plus rapides, et puis dans l'ensemble de la pièce, avec des longueurs et puis par contre des moments très très rapides.
Alors, après ce solo, vous êtes rejointe, si j'ose dire, par Jennifer Bone, et on voit tout de suite une thématique qui est celle du miroir, la gémellité, puisqu'effectivement, le solo, vous avez un corps allongé et repris en dessous de la table par Jennifer Bone. Cette manière, justement, de jouer en miroir, quitte après à décaler les choses, comment est-ce que c'est venu, justement, aussi par rapport au sens de la pièce ?
Alors en fait, ça au départ, c'était moi, j'étais très intéressée par l'anonymat dans ce sujet de la prostitution, très souvent parce que, par exemple, elles ont des noms, des petits noms, donc il y a leur nom de famille, etc., sont pas souvent connus, et donc l'anonymat aussi, puisque c'est des femmes qui sont souvent, qu'on laisse, surtout en France, en marge, et qui donc doivent rester dans l'ombre, et c'est l'anonymat du client aussi, de toute façon, donc l'anonymat était quelque chose de très important. Et donc dans ce duo où finalement Jennifer Bone et moi-même nous ressemblons, ça permettait d'évoquer à la fois deux personnes qui sont identiques, qu'on sent quelque part, on s'en fiche que ce soit elle ou moi, pour être deux femmes anonymes, ou on pourrait être aussi également une même femme, parce que ça c'est assez présent aussi de diviser leur les prostituées disent souvent qu'elles divisent un peu leur corps émotionnel et leur corps on va dire mécanique du travail. Donc ça pourrait être aussi une même personne qui se divise, celle qui est elle-même avec ses sentiments, avec son corps propre, et puis celle qui se donne, donc qui un corps plus mécanique pour cette activité de la prostitution. Donc voilà, c'était un peu sur ces deux doubles jeux qu'on retrouve un petit peu dans la danse avec les cheveux devant les yeux, qui permet aussi de faire un anonymat, d'évoquer un anonymat de la danseuse.
Aussi une autre dimension peut-être qui est celle du toucher, que l'on retrouve à plusieurs reprises, que ce soit vous-même qui parcouriez votre ligne de corps, donc le buste notamment, ou la jambe avec la main, ou alors dans un solo assez impressionnant qui va, semble-t-il, en s'accélérant, où on ne voit pas votre visage qui est caché par une cascade de vos cheveux, et dans lequel effectivement il y a ces frottements, ou que ce soit dans le duo par exemple avec Jennifer Bone, où vous caressez, enfin vous passez autour de la table. Jean-Luc Nancy disait dans l'ouvrage, je crois que c'est Le toucher, Jean-Luc Nancy, de Jacques Derrida, il y avait cette phrase qui disait qu'effectivement le toucher fragmente, alors que la vision, elle, globalise le corps. Qu'est-ce qu'il en était d'introduire justement ce sensorium très particulier que vous avez par frottement, par toucher ?
Alors en fait, c'est vrai que le toucher a été un élément déterminant, parce que je me demandais qu'est-ce qui faisait la différence entre l'activité de la prostitution qui utilise évidemment la sexualité pour gagner de l'argent, mais il y a les danseuses érotiques ou les mannequins de charme par exemple utilisent aussi la sexualité. Ça n'engendre pas le même rejet de la prostitution, et je me suis rendu compte que la limite du toucher, donc c'était les prostituées sont des personnes qui peuvent être touchées, alors que l'actrice pornographique, le mannequin de charme, etc., ne sont pas touchables en fait. Donc c'était la limite qui a été dépassée, donc ça a été un point vraiment déterminant dans le travail. Utiliser le toucher pour travailler sans le décrire concrètement, sans se toucher les uns les autres évidemment. Donc en fait, c'est ce que vous avez dit, ça m'a permis de me rendre compte que le toucher divise précisément le corps, il devient très très précis par rapport à la vision qui englobe totalement le corps. Le toucher, quand on touche quelqu'un, quand on pose sa main sur quelqu'un, on doit le poser à un endroit précis, ce qui fait que ça divise le corps, et donc ça m'a permis à la fois dans les danses d'avoir plus d'attention aux mains, à l'endroit précisément de la table que je touchais, à la manière dont on enlève ces scotchs qu'on tient, qu'on touche, et puis aussi à l'importance des parties du corps, par exemple notamment cette scène où on met des étoiles sur nos tétons. C'était en abordant justement le toucher, c'est-à-dire que un sein peut être divisé en deux parties dans le toucher, alors que dans la vision, quelque part, il reste unifié. Parce que moi, a priori, je pense que la prostituée a un grand atout, un grand pouvoir érotique, et que c'est juste l'absurdité de comment elle est parfois traitée, que ce soit par les hommes ou par la société, je dirais en général, ou par les autres femmes, ça c'est pas... C'est en général, on va dire. Donc ce double côté de quelque chose qui devrait être quelque part respecté et jamais violenté, et qui dépasse les limites.
Alors justement, cet imaginaire masculin sur la femme, il va apparaître de plusieurs manières, et notamment par des chansons. La première qui en fait traite à la fois de la prostitution masculine et d'un stripteaseur homme, mâle, c'est American Music Club, Patriot's Heart. Oui. Pouvez-vous nous expliquer justement, parce qu'il y a une séquence dans laquelle, en fait, on peut revenir à Pinabausch ou à d'autres, c'est-à-dire que les mouvements même que vous faites pour vous rhabiller, c'est vraiment des mouvements de danse. Je crois qu'il y a, une danse quasiment en continu, on pourrait dire, nonobstant l'aspect installation plasticienne, mais il y a toujours un corps qui est en mouvement, même quand il est immobile, je crois. Donc qu'est-ce qu'il en était par rapport à ça, où vous, effectivement, vous rhabillez avec une infinie lenteur, avec des gestes calculés au millimètre, il y a presque le t-shirt aussi qui se déroule très progressivement. Qu'est-ce qu'il en était justement par rapport à une chanson qui, elle, décrit l'inverse ?
Oui, ben c'est vrai que il y a trois chansons dans la pièce qui parlent explicitement de la prostitution. Donc il y en avait beaucoup. On a travaillé avec Jennifer Bonne à la base sur plusieurs chansons, et c'est vrai que celle-là m'intéressait notamment parce que je la trouve très belle, mais aussi parce qu'elle parlait justement d'un prostitué homme, et que donc ça permettait aussi d'évoquer que ce ne sont pas uniquement des femmes. Et puis il y avait quelque chose, je trouve, de très joli dans le titre de la chanson, que ce sont des chœurs patriotiques qui quelque part font un travail patriotique, donc j'aimais bien ça. Et après j'ai choisi de me rhabiller parce qu'en fait il y a donc un travail, ça fait partie de la manière d'aborder la nudité, car en fait il y a de la nudité, mais il n'y a aucun moment où je me déshabille à vue. Il y a uniquement du rhabillage, je ne sais pas si ça existe, mais du rhabillage, donc le fait de se couvrir et de se rhabiller. Pour moi cette scène, c'était aussi de ne pas oublier que une fois qu'elle se déshabille pour le client et que le client part, elle se rhabille aussi, et c'est tout ce qu'on oublie peut-être des fois, ou donc ce retour à son corps une fois que l'acte est passé. Et donc c'est ça que je voulais évoquer, de la même manière que je me rhabille avec un jean et un t-shirt, parce que les prostituées que j'ai rencontrées aussi en dehors de leur travail sont ce qu'on oublie aussi, des femmes totalement normales en jean et en basket. Et donc c'était important d'évoquer ce côté-là, qu'on oublie parfois des clichés un petit peu, que comme si la prostituée n'existait que dans sa vitrine ou que dans son salon de massage, alors qu'elle a une vie totalement normale à côté. Notamment, par exemple, il y a un gros phénomène en France de prostituées étudiantes, qui sont des jeunes filles qui vont travailler et qui se prostituent le soir. Donc cette scène-là, voilà, c'était comment une femme peut se retrouver son corps en se rhabillant quelque part. Donc les mouvements sont très lents, donc oui, c'est effectivement de la danse, mais j'ai juste travaillé sur les mouvements que je faisais tous les matins, les plus simples pour me rhabiller, en essayant de les ralentir, et puis...
Je pense que comme une fille enlève sa robe, bon, cette phrase de Bataille reprise par Jean-Luc Nancy dans La pensée dérobée, l'un de ses ouvrages, ça ouvre aussi sur le rapport entre les identités sexuelles. Et là, vous l'avez présenté au départ, donc cette première scène où vous dévidez, ou plutôt vous coupez ces petites figurines de bons hommes comme dans une guirlande, et puis une scène terminale dans laquelle ces mêmes bons hommes sont, dans une perspective et une échelle différente, projetés. Alors quelle était un petit peu l'idée justement de les introduire de cette manière-là, puisqu'ils vont jouer comme des figurines animées avec vous. Vous avez parfois une position de louve romaine, pourrait-on dire, ou autre, et puis vous les absorbez aussi
Oui, là aussi, c'était une des manières d'aborder le sujet du masculin, parce que à la fois je trouvais que la question pouvait se poser de qui est l'objet dans ce rapport de la prostitution. Est-ce que la prostituée est forcément l'objet? Il s'avère que selon les prostituées, je pense pas forcément. Donc là, de mettre cette petite figurine d'un homme si petit, ça permettait de lui donner une fonction un peu, on va dire, décalée et comique d'un homme objet aussi. Donc dans la projection ensuite, la femme est très très grande en comparaison avec le petit bonhomme. Et donc il y a quelque chose de voilà, c'est presque un petit peu pornographique, puisque le bonhomme investit son corps et puis investit à l'intérieur de sa bouche, à l'intérieur de ses jambes, mais ça donnait un petit côté décalé puisque ce sont des petites figurines. Puis aussi c'était un côté un petit peu enfantin, parce que quelque part il y a quelque chose dans les témoignages, il peut être aussi des rapports très doux et très enfantins entre la prostituée et son client, qui est quelquefois, elles ont presque un rapport de maman avec leur client. Certains, évidemment, hein, il y a plein de cas différents, et du coup il y avait quelque chose d'un jouet pour ces hommes, d'une femme qui deviendrait un jouet pour ces hommes, et quelque part d'un certain accord entre les deux de jouer ensemble, si on peut dire ça comme ça, évidemment, hein. Voilà.
Mais c'est un rapport maternel, notamment, dont témoigne beaucoup Grisalie d'Israël dans ses ouvrages. Est-ce que justement, par rapport à cette question de je dirais, des images de la prostitution que vous convoyez, on a toujours l'impression que vous n'avez pas envie de donner, et les textes des chansons le donnent bien, un sens univoque à la chose. Et je parlerai peut-être du texte de Jennifer Bourne. Comment est-ce que vous l'avez ressenti? C'est un texte à la fois d'une poésie extrêmement, je dirais, nocturne, presque spectrale, avec un cœur d'homme absent. Il y a également, et c'est un texte qui est proféré, ce n'est pas pour rien, à genoux, avec un micro qui surplombe. Il y a toute une scansion avec le souffle, hein, puisque c'est un texte sans ponctuation. Qu'est-ce qu'il en était justement de cette vision peut-être de ces hommes un peu fantomatiques mais qui dictent quelque part le corps en même temps que peut-être aussi la prostituée peut y trouver un moyen de reprendre son empire à elle?
J'ai surtout voulu aborder le sujet de plusieurs manières, notamment parce que je ne voulais pas donner une seule façon de voir ce sujet, et aussi parce que c'est un sujet que je ne connais pas, enfin c'est un milieu que je ne connais pas. Je me suis un petit peu renseignée en allant dans des associations, mais c'est donc un milieu que je ne connaissais pas, et ça m'intéressait tout autant que ce soit deux femmes, que ça puisse se transformer en un univers imaginaire, que ce soit quelque part pour un homme qui ne va jamais voir de prostituée, ou pour une femme qui peut imaginer à la fois son copain, son mari, son frère qui irait voir une prostituée, ou tout simplement elle, si elle allait dans ce monde, ou si elle se prostitue, etc. Donc il y a tout un univers fantasmatique qui est de l'ordre de l'irréel, et c'est pour ça qu'il y a aussi ces bonhommes, cette scénographie d'un univers irréel. Donc Jennifer Bonne et moi, on a pris aussi le parti de s'approprier nous-mêmes ce sujet, elle avec elle et moi, avec mon corps et elle avec sa voix, et d'en faire donc quelque chose de personnel à ce niveau-là. Donc c'est vrai que Jennifer a écrit ce texte de manière très personnelle, comment elle pouvait vivre ces histoires. Donc par exemple, ça se passe plus dans une forêt, parce que c'est vrai qu'à Paris, notamment, les prostituées sont souvent poussées des villes. Donc elle y voyait un univers avec du vent, des arbres, du noir, des voitures qui passent, etc. Donc elle s'est appropriée cet univers pour en faire un texte assez abstrait. Et dans la manière, donc, comme on a toujours travaillé en lien entre les mots et le corps, elle s'est mise dans une position qui lui permettait de, donc à genoux, évidemment parce qu'elle est évocatrice, mais aussi parce que ça lui permettait concrètement d'avoir un impact direct sur ses mots en se mettant dans cette position, et en laissant vraiment sortir le souffle et la voix lors de ce texte.
C'est une sorte de cartographie qui se crée avec un tracé en pointillé qui apparaît dès le départ. On va parler aussi du gaffeur qui est une constante chez vous, enfin en tout cas qu'on retrouve dans plusieurs pièces. Mais qu'est-ce qu'il en était justement de cette ligne qui après va se former par le prolongement de vos deux corps nus allongés, et puis en même temps, donc la chanson de Bobby Lapointe, ça va, ça vient.
Oui, alors ça, c'est vrai que je crois que c'est la première image que j'ai eue de la pièce, donc c'était vraiment il y a très longtemps. Donc au départ, j'expliquais pas vraiment, c'était comme souvent une image scénographique qui arrivait à la base, hein, bien avant la danse et bien avant beaucoup de choses. Donc, et petit à petit, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était qu'au départ, l'espace soit totalement vide, hein, donc il est totalement noir, et que petit à petit, il y ait des choses qui soient cachées sous ce noir. Et ça fait référence de nouveau à ce monde où quelque part c'est les mêmes trottoirs ou le même bois de Boulogne où la journée on peut se balader en famille, etc. Et que le soir des choses s'investissent et apparaissent et de nouveau sont recachées dès que le jour apparaît. Donc c'était un peu cette idée-là. Et puis toute cette scénographie fait tout simplement, je dirais, référence à la trace au sens large du terme, que ce soit la trace corporelle, la trace que ça peut laisser sur les corps ou la trace dans l'espace urbain. Que le corps prostitué. Donc voilà, ça fait référence à la trace d'une manière large, la trace que l'homme peut laisser aussi, puisque c'est lui qui finit le chemin en partant.
On retrouvait d'ailleurs cet amour, je crois, dans Série, que vous aviez également pour ce déchirement que crée dans l'espace et dans le corps le gaffe.
Oui, c'est vrai que pour Jennifer, c'était un vaste sujet, c'était important de se limiter à des choses réelles. Donc elle a tout de suite été intéressée par la proposition que moi, effectivement, j'utilisais déjà dans ma cabane au Canada, puis avec du papier, mais il y avait quand même du gaffeur dans Série. Et donc là, il y avait du gaffeur. Donc pour elle, évidemment, elle voit tout le temps le son partout. Et puis elle aimait beaucoup le travail sonore au niveau du scotch. Donc elle a utilisé des éléments réels comme, par exemple, donc ce scotch qu'elle a déroulé, craqué, froissé et qui a créé finalement avec un montage un son, ou la table qui grince. C'était aussi des vrais éléments sonores pendant les répétitions, ou mon corps qui frottait au sol. Donc on a commencé comme ça par par, on va dire, emmagasiner des sons qui venaient réellement du travail en studio. Et puis, c'est ensuite à partir de là qu'elle a créé un imaginaire, qu'elle a rajouté des sons, des voix, des choses. Mais au départ, tout vient d'un espace brut et réel, on va dire, avec les petits moyens qu'on a, parce qu'on se rend compte qu'avec peu de choses, finalement, si on creuse à l'intérieur, c'était la même idée dans série avec le papier toilette. Finalement, on peut, avec une même matière, essayer d'aller creuser à tous les niveaux, que ce soit sonore, découper, craquer, poser, rendre joli ou rendre moche, s'entourer le corps avec. Enfin voilà, on a essayé de travailler comme ça.
Justement, qu'est-ce qui peut relier justement ma cabane au Canada, qui était inspirée d'un propos de Deleuze sur la ligne qui nous compose, et puis série, une interrogation sur la manière de configurer, de formater le geste avec l'espace. Qu'est-ce qui peut un peu relier ces deux démarches? On retrouvera nécessairement un certain nombre peut-être de géométrie, de proposition corporelle qu'on a vu, mais d'une autre manière dans vos solos.
Au départ, justement, rien. Je veux dire, celle-là, c'était vraiment une volonté de... Comme Ma cabane au Canada et série étaient volontairement une même recherche par rapport à la chorégraphie dans un espace scénographique, donc c'était un peu une recherche formelle là-dessus. Là, je voulais aller vraiment ailleurs. Et puis, c'est un peu malgré moi, je dirais que... Je sais pas, c'est quelque part une esthétique qui nous touche plus qu'une autre. Au fur et à mesure des répétitions, il y avait des choses qui revenaient, comme évidemment la spatialisation ou l'espace géométrique, évidemment le noir et blanc. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont revenues au fur et à mesure, petit à petit. J'ai aussi travaillé avec une scénographe qui m'a permis, par exemple, d'avoir des éléments comme la perruque, des choses comme ça que par moi-même, comme je suis dans un travail plutôt sur des matières brutes, j'aurais pas eu l'idée d'avoir. Mon univers à moi, avec ces scotchs et tout ça, est revenu malgré moi. Puis j'ai essayé d'aller un tout petit peu plus loin, bien que c'est pas évident. Voilà, avec d'autres éléments comme voilà les talons, la perruque, des choses qui sont différentes par rapport à ces deux pièces quand même, aux deux premières.
Quand on dit justement enlever sa robe, donc se dérober, vous engagez, je crois, la chorégraphie de dos, que ce dos se retrouvera nu, et ces dos paysages qu'on a pu croiser, parce que effectivement, pas uniquement chez Gilles Jobin ou Cindy Fornaker, mais j'entends, oui, vous avez la forme de vos côtes, celle de vos muscles, qui forment tout de même un dessin totémique assez puissant. Et puis on retrouve cette station à la fois chez Jennifer Boone et chez vous-même à plusieurs reprises, c'est-à-dire ce corps dans une position, je dirais, fœtale, comme ça, replié comme un œuf. Vous avez souvent cette notion de bulle ou de sphère quand vous parlez du corps.
Ah oui, ça aussi c'est vrai que quelque part il y a eu aussi quelque chose de nouveau de en abordant ce sujet qui n'était pas forcément facile ni pour elle ni pour moi. Donc il y avait des moments où tout simplement dans les improvisations qu'on faisait, puisque j'ai donc mis aussi en action Jennifer Bond, donc il y a aussi quelque chose de très joli dans le fait de travailler avec une personne qui n'est pas danseuse, parce que elle allait directement vers quelque chose de naturel, de comment un corps doit se protéger naturellement, comment... c'est des positions que je pouvais faire moi, mais peut-être que j'ai pris de Jennifer dans les improvisations, parce que pour pouvoir se sentir à l'aise aussi par rapport à la nudité ou par rapport au fait de chanter ou par rapport au sujet, il y avait cette position que je trouvais très jolie de se recroqueviller. Et puis c'est une position très naturelle, c'est une position qu'on a quand on dort, tout simplement sur le côté, ou quand on est triste, ou aucun bébé a dans le ventre de sa mère. Donc c'était une position des plus naturelles, que des fois les danseurs, on oublie malheureusement ces positions naturelles, et puis que j'ai repris consciemment évidemment après.
Qu'est-ce qu'il en était justement sur ce vécu des prostituées, ce que vous avez pu en lire ou recueillir entre la France et la Suisse, qui sont quand même très très différents?
C'est vrai que en fait moi j'ai participé à des assises qui étaient organisées par des associations françaises, et il y avait notamment des prostituées suisses qui venaient et qui défendaient justement la Suisse à ce niveau-là. Donc elles le défendaient, c'était à l'Assemblée générale à Paris, hein. Et donc ça, elles défendaient de manière, je trouvais très très bien le positionnement suisse par rapport à cette pratique, parce que ça permet quand même, selon elle évidemment, une sécurité, et puis aussi au client de ne pas faire n'importe quoi. Il n'est pas le roi là-dedans, et puis il a le droit, enfin s'il va trop loin il y a aussi des sanctions, tandis qu'à Paris avec ces lois où on les, enfin le ce qu'elle disait dans les manifestations qui ont suivi cette assemblée, c'était rendez-nous nos trottoirs, et c'était aussi, ça pourrait résumer tout simplement, c'est vrai qu'avec ces lois qui criminalisent, on les rejette toujours plus loin, ça fait baisser en aucun cas le nombre nombre de prostituées, et c'est quand même un comble que ce soit une activité qui soit faite pour les hommes essentiellement, puisque le prostitué, qu'il soit masculin ou féminin, il est fait pour les hommes, et qu'il n'y ait pas quelque part une manière de protéger ces hommes et ces femmes qui se prostituent pour ses clients. Donc c'est pour moi une grosse hypocrisie quand même que de les rejeter dans ces bois en dehors de Paris avec tous ces risques qu'elles courent. C'est, je trouve, assez scandaleux en fait.
Peut-être pas entrer trop dans les détails, mais je crois qu'il y a un vrai problème de criminalisation, parce qu'il y a un fichier, judiciaire parallèle, c'est le fichier STIC en France qui s'est créé à partir de 2002 et qui fait que ces faits sont appréciés par la seule police qui en elle-même donc retient la prostituée en courte peine d'emprisonnement, confisque l'argent, met une amende, rappelle à la loi le jugement. Donc il y a une mise à l'épreuve aussi. Je veux dire, c'est vraiment un parcours qui est extrêmement humiliant pour la prostituée, qu'elle n'a visiblement pas, ou moins en tout cas, à subir en Suisse.
Oui, ça, après moi je ne connais pas non plus tous les détails, hein, mais je sais juste que d'une manière, c'est comme si la prostituée était seule, et c'est souvent ce qui m'étonne dans les articles que je peux lire, c'est toujours la prostituée, même dans tous les livres que j'ai lus là-dessus, c'est toujours la prostituée, alors que la prostituée n'existe pas sans le client, c'est un rapport à deux, et la prostituée seule n'existe pas, concrètement, ou le prostitué, ça nous est égal, mais en tout cas, et donc que ce soit unique, soit c'est un système qui devrait être interdit, et à ce moment-là, on devrait, de la même manière que vous l'avez dit, sanctionner tout autant le client, donc prendre, quand on arrête la prostituée, on devrait arrêter le client, donc ça c'est le cas dans des pays scandinaves ou des choses comme ça, ou alors légaliser les deux. Mais là, ce qui me paraît totalement aberrant, c'est que ce soit uniquement la prostituée qui soit mise en cause. Alors,
dernière chose justement sur cet entre-deux, alors que vous abordez pas nécessairement entre le client et la prostituée, mais entre les deux personnes, Jennifer Bone et vous-même, vous citez, je me permets de le reciter, c'est un petit peu long, mais c'est extrait de l'Iliade du rapport sexuel de Jean-Luc Nancy, c'est justement cet état du rapport sexuel, c'est-à-dire ce rapport à deux. Alors c'est évidemment dans le cadre du rapport sexuel, mais il parle de quelque chose qui décrit assez bien ce qui se passe dans le, même si c'est pas nécessairement sexué comme espace, mais dans la chorégraphie, c'est-à-dire que l'entre-deux, qui n'est aucun des deux, il est le vide ou l'espace ou le temps ou le sens. Donc c'est, vous parliez de la nullité illimitée quelque part. Est-ce que pour vous, vous avez aussi beaucoup travaillé cet entre-deux corps?
Pour moi, cette phrase, elle a été, c'était la phrase phare de ma recherche, parce que la manière dont il parlait du rapport sexuel était pour moi tout à fait juste. À la fois parce qu'elle est abstraite, mais qu'elle est abstraite chez chaque personne. Personne comprend ce qui se passe réellement et tout le monde est intrigué et tout le monde est étonné, sinon ça n'aurait pas une telle importance dans le quotidien de chacun, dans tout ce qu'on voit autour de nous, dans chaque magazine, dans chaque... Donc voilà, de passer de quelque chose d'aussi finalement d'aussi commun à tout le monde, mais d'en faire quelque chose de presque philosophique, je trouvais qu'il y a une marge de travail extrêmement intéressante et extrêmement riche à développer là-dedans. Donc c'est finalement l'acte même du corps prostitué qui a été élargi. Et puis il le décrit très bien quand il dit que c'est un entre-deux, quelque chose où on ne peut pas vraiment déterminer. Mais en tout cas, il y a cette idée de entre-deux qui me plaisait beaucoup, parce que un rapport sexuel se passe forcément à deux, a priori, en tout cas dans la prostitution, dans le rapport prostitutionnel. Donc ça, pour moi, c'était vraiment primordial de ne pas oublier qu'on ne peut pas parler du corps prostitué tout seul.
Genèveactive.ch